manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al ranzo las carechas llegó una mañana, por su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del fielo vejero, donde tanto tiempo quedaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en chica tan linda, un mísero pío? Por el ventisquiero, por mi tierra de fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro que en penosa marcha, con las manos llenas, escarcha encontró.
Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour, bienvenue sur Remue-ménage Radio Zone 93.8. En cet après-midi frisquet, où il neige peut-être sur les montagnes, nous l'espérons. Eh bien, nous avons parlé longuement, nous allons, pardon, parler longuement avec deux femmes qui sont originaires d'Allemagne, qui y ont vécu leur enfance et leur adolescence, et puis qui finalement ont quitté chacune de leur pays pour venir s'établir en Suisse. Et lorsque l'on a vécu longuement en Allemagne et que on assiste ces derniers mois au changement bouleversant la situation, eh bien, comment cela se passe-t-il de devoir assister à des choses aussi importantes à distance, alors qu'on y a été tellement lié pendant longtemps? Alors voilà le sujet de notre émission d'aujourd'hui, en compagnie de Valtraud Kiblié et Dagmar Excel. Corazón contest. Demain, le peuple chilien vote pour élire son président après des années et des années de dictateurs. Aujourd'hui, nous sommes de tout cœur avec eux et nous espérons sur Remue-ménage que la démocratie et la liberté vont exister pour toujours à nouveau au Chili. Et nous donnons la parole à Violeta Parra qui chante pour Isabelle et Angel Parra, ces enfants qui ont été cruellement réprimés par la dictature au Chili.
Como en mar violento, la carabela, sí, la carabela, tú me desvelas. ¿Qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí, no soy de fierro, me tratas lo mismo. Como a los perros, sí, como a los perros, es mi destierro. ¿Cuál es mi pecado? Pa' maltratarme, sí, pa' maltratarme, como el prisionero, por lo gendarme, sí, por lo gendarme. Quieres levantarme. Pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y mi sangre oprimes entre tus redes, sí, entre tus redes, porque no cedes. Corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento, sin miramiento, me das tormento, sin miramiento.
Violeta Parra, pour fêter le retour de la démocratie au Chili. Eh bien, nous sommes aussi de tout cœur avec le peuple brésilien qui, sur le même continent, vote aussi pour la première fois pour son président depuis 29 ans. Oui, il y a 29 ans, était élu le dernier président qui n'a gouverné son pays que pendant 4 ans, puisqu'en 1964, il était renversé par une dictature qui a sévi pendant 20 ans. Eh bien, si peut-être ce week-end, ce samedi, Lula, le candidat du Parti des travailleurs au Brésil, est élu, eh bien, on verra enfin le retour de l'intérêt des plus pauvres et des travailleurs au Brésil. Alors de tout cœur avec eux, le peuple brésilien.
Eu quero.
C'était Elba Ramalho qui organise la fête pour la fin de ces élections. Nous espérons sûrement avoir des nouvelles de nos amis du SOS Corpo à Recife qui nous donneront leurs impressions sur les élections. Bethania, qui était en visite chez nous en septembre, nous l'avait promis. Alors on se chargera de leur rappeler pour avoir un relais tout frais de ce que furent ces élections. Pour cette soirée, eh bien maintenant, nous allons discuter un long moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Waltraud Kiblié et Dagmar Exel, qui toutes les deux sont allemandes, mais qui vivent en Suisse depuis un certain temps. Déjà, Dagmar est en Suisse depuis 1964 et Waltraud depuis 1971. Elles ont bien sûr un vécu long en Allemagne quand même. Elles y ont vécu leur enfance, leur adolescence et elles sont à cause de cela fortement attachées encore à l'Allemagne, d'ailleurs où elles sont retournées souvent pour l'une et pour l'autre. Mais lorsque l'on a vécu comme vous tous et vous moi et elle, les événements de ces derniers mois qui ont soulevé tant de changements en Allemagne de l'Est depuis novembre, qui ont provoqué la chute du mur de Berlin, eh bien j'étais très intéressée de savoir comment on pouvait ressentir ces événements quand on est allemande, si loin puisqu'on est en Suisse à la fois et si proche puisqu'on est de cœur attaché à ce qui s'est passé. Et surtout, lorsqu'on a vécu son enfance et son adolescence en Allemagne, à une époque, et c'est le cas aussi bien pour Waltraud que pour Dagmar, c'est-à-dire la fin de la guerre et les années 50, où tout ce qui se dénoue aujourd'hui s'était noué et fermé à ce moment-là. Alors, rappelons-le juste rapidement, effectivement, que c'était en 1949 que s'est créée la RDA et que c'était juste à la fin de la guerre en 1945 que les États-Unis, l'URSS et l'Angleterre s'étaient partagés et l'Allemagne. Alors, j'ai d'abord demandé à Waltraud et à Dagmar de nous raconter ce que chacune avait vécu en Allemagne dans ces fameuses années 50, ce que fut leur enfance et leur adolescence jusqu'au moment où finalement elles ont décidé de quitter l'Allemagne, ceci après avoir vécu encore la tombée du mur de Berlin. Alors, Waltraud habitait, elle, à Koblenz.
Alors voilà, le travail a démarré de cette manière. Nous étions donc en séminaire sur l'industrialisation en 1870 jusqu'en 1920.
Excusez-nous, inversion de cassette, on n'est plus sur le même sujet. Alors je vous rappelle que j'ai d'abord demandé à Waltraud et à Dagmar qu'elles nous racontent leur enfance et leur adolescence en Allemagne. Waltraud vivait en Allemagne de l'Est, Waltraud vivait en Allemagne de l'Ouest, Dagmar vivait en Allemagne de l'Est. Et Waltraud habitait, je crois, à Koblenz.
Oui, et disons là, je ne suis pas née, comme tous les Allemands.
Vous avez déménagé souvent ?
Pas souvent, non, mais disons, je suis née là où mes parents ont atterri, soi-disant, après la guerre. Mmh. Et c'était une toute petite ville au milieu de l'Allemagne qui s'appelait Alsfeld, qui est près de Marburg. Puis bon, mes parents qui étaient bombardés à la fin de la guerre venaient là comme réfugiés. Et jusqu'à l'âge de 11 ans, on habitait dans cette petite ville. Puis après, on est allé à Koblenz. Mais mes parents venaient, disons mon père venait de Berlin et ma mère venait de Mayence, qui fait déjà un brassage de mes origines.
Et puis, bon. Alors quand, par rapport à, disons, une prise de conscience qu'on peut avoir en tant qu'enfant de ce qui se passe dans son pays, est-ce que vous avez des souvenirs les plus lointains possibles sur ce bouleversement qu'a provoqué la fin de la guerre en Allemagne et tout à coup la conscience qu'on allait devoir vivre dans deux Allemagnes, qu'il y avait cette autre partie de l'Allemagne qui n'était plus accessible aussi facilement qu'avant?
Ah, bien sûr, depuis ma plus petite enfance, parce que ma grand-mère habitait à Berlin-Est. Il y avait encore mon oncle qui était également à Berlin-Est. Puis il venait pour les fêtes chez nous. Bon, c'était toujours lié à des démarches administratives. Et puis, depuis le début, il y avait des grandes différences entre nos vies, hein, entre le standing de nos vies. Puis ça, je vivais comme toute petite enfant déjà.
C'était toujours
ça, qu'il y avait une ville qui était partagée en deux, qu'il y avait une frontière qui s'appelait der Eiserne Vorhang, le rideau de fer, aucune idée ce que c'était, mais que c'était quelque chose d'infranchissable.
Infranchissable et pourtant assez inimaginable en même temps, non?
Oui, mais c'était comme ça. Il y avait quelque chose là, je connaissais le nom de certaines villes parce qu'on m'en avait parlé de ça. Et je connaissais tout ça sans pouvoir vraiment me faire une idée. C'était abstrait, comme enfant. Mais ça existait. Il y avait une frontière qui existait. Et puis, il y avait une partie de l'Allemagne où on vivait moins bien que chez nous. Pourtant, nous, on ne vivait pas très, très bien dans les années 50. Mais de l'autre côté, on vivait encore moins bien. Et tout ce qui venait de l'Est, quand on recevait des cadeaux, des petits paquets, des choses comme ça, souvent, c'était une moins bonne qualité ce qu'on avait, nous. C'est comme ça que je ressentais comme enfant.
Par exemple, aussi, un niveau de vie différent, vous le remarquiez à quoi?
Après ça, dans la nourriture, dans les jouets qu'on recevait. C'était jamais des jouets comme on recevait de l'autre grand-mère qui était à l'ouest. C'était sur un niveau très simple.
Oui. Mais vous alliez quand même encore à ce moment-là en Allemagne?
À ce moment-là, pas encore. Ça venait plus tard. Je parle des années 50 quand j'étais vraiment petite. Mm-hmm. Comment j'ai appris qu'il y avait deux Allemagnes. Puis plus tard, quand mon père aimait vraiment beaucoup cette ville et ce paysage, pas seulement la ville, le paysage du Nord, Mecklenburg, Brandenburg. Alors, on allait voir un ami qui habitait à Wittstock. Ça, c'est entre Berlin et la mer Baltique, à peu près au milieu. Et c'est là où j'ai découvert la République démocratique allemande, qui à l'époque, on appelait ça die Ostzone.
Oui, donc on n'admettait pas qu'il y avait un autre État.
Ah non, disons, ce n'était pas encore une chose faite, de loin pas.
Donc on ne disait pas « je vais en RDA ».
Ah non, on allait dans l'Ostzone.
Dans la zone de l'Est, oui. Et puis, ces passages se faisaient facilement à ce moment-là?
Ah non, c'était tout au contraire, absolument, affreusement compliqué. Il fallait un permis, donc une autorisation de séjour qu'il fallait demander beaucoup de semaines à l'avance. Et puis, quand on passe à la frontière, nous, on a passé plusieurs fois en voiture. C'était des fouilles qui duraient des heures et des heures. On mettait tout par-dessus. Nous, on passait en principe la nuit parce qu'on pensait que ça ira plus vite, mais ça n'allait pas tellement plus vite. Et c'était vraiment chaque fois très, très énervante. Il y avait question des devises, on n'avait pas le droit d'avoir de l'argent. Puis il fallait faire indiquer la somme d'argent de D-Mark qu'on portait avec soi. Puis on avait toujours peur qu'on aurait oublié un billet de 10 marques. Et c'était terrible. Mon père était toujours très, très, très excité. Ma mère apaisait les enfants et son mari. Et c'était des situations à peu près comiques.
Et vous posiez quelles questions comme enfant?
Mais là, j'étais déjà plus tellement au fond. C'était quand même déjà l'adolescente qui partait. On ne posait pas de questions, on nous avait expliqué. Et puis, à la fin, en famille, on discutait beaucoup de cette situation de l'Allemagne. Alors, on regardait les nouvelles à la télévision, on écoutait la radio, et on écoutait nos parents, ce qu'ils racontaient, comme mon père était toujours très concerné par cette question de l'Allemagne, comme on avait encore à l'époque ma grand-mère et mon oncle. Alors, ces deux systèmes qui prenaient tellement des voies différentes se développaient de façon très, très opposée. Et ça, on était en train de découvrir quand on allait en République démocratique allemande. Et puis là, on avait le contact avec les enfants de ces amis de mon père, qui avaient l'âge de ma sœur et moi. Puis on voyait comment ces filles-là vivaient, comment nous, on vivait. Et bon, des fois, il y avait des discussions animées.
Oui, c'est-à-dire, donnez-nous voir quelques exemples. Entre enfants, qu'est-ce que vous compariez? Les jeux, l'école, ce que vous aviez le droit de faire, pas de faire
Plutôt, quelles étaient nos possibilités, ce qu'on pouvait faire. Et vous voyez, il y a quand même toute une idéologie qui a imposé, et qui était très, très dominante. Et contre cette idéologie, on s'adressait. Disons, on n'aimait pas. Par exemple, je me rappelle très bien des grandes inscriptions qu'il y avait partout. Je ne pourrais plus citer une, mais ce que le parti doit faire, ce que l'individu doit faire, ce que le système va faire, ce qui sera prévu dans le plan et des choses comme ça. Puis moi, je ne comprenais pas très bien ça et je notais ça parce que je voulais comprendre après ce que ça voulait dire, ces grands transparents partout, ces paroles partout. Puis à l'époque, ma sœur avait un assez grand engagement religieux. Et bon, ça amenait aussi des discussions à ne plus en finir.
Mais vous arriviez quand même encore discuter alors avec les enfants des amis de vos parents.
C'était des copains, c'était fantastique. Parce qu'on était dans une petite ville, il y avait un jardin, on s'entendait bien. Mais il y avait des fois des discussions.
Et même entre adolescents, ça n'a pas créé des barrières infranchissables, dans le sens où vous ne vous trouviez pas vraiment dans deux pays opposés.
Oh, on était trop petits aussi, jusqu'au mur en 61. Moi, à 61, j'avais 16 ans. Ce n'était pas encore ça. Et à l'époque, ses amis venaient aussi beaucoup nous voir à Koblenz. Non, ça ne posait pas de problème à cette époque-là. Ça devenait plus tard. Problème, je ne sais pas si c'était problème, mais disons qu'il y avait deux manières différentes de voir les choses.
Peut-être qu'on va reprendre ensuite après ce que la construction du mur de Berlin a provoqué dans ces échanges et dans ces rencontres, mais peut-être vous, Dagmar, qui avez vécu une situation différente, puisque vous habitiez en Allemagne de l'Est.
Oui, j'ai habité l'Allemagne de l'Est jusqu'en 1953. Je vais peut-être un peu raconter toute l'histoire. Je suis issue d'une famille qui, elle, est originaire encore des régions beaucoup plus à l'Est, qui sont en URSS maintenant. Et sous le pacte entre Hitler et Staline, était repatrié en tant qu'Allemand dans les zones occupées, donc à la Deuxième Guerre à l'époque, qui sont polonaises maintenant. Alors moi, je suis née en Pologne, en fait, qui était occupée à l'époque, pendant la guerre. Et en 1944, mon père, il était à la guerre, et ma mère, ma grand-mère et moi, nous nous sommes enfuis. Et nous avons, comme disait Waltraud, chuté en Allemagne de l'Est, dans une petite ville de 7000 habitants. Je crois que c'était en février 1945, donc avant la fin de la guerre. Alors, c'était une ville qui était assez intéressante parce que, comme c'était avant la fin de la guerre, il y avait à la fois les Anglais, les Américains et les Russes dans le même petit bled. Et comme je crois que tout le monde était loin depuis très longtemps de leur famille, les enfants étaient très aimés. J'ai des souvenirs extraordinaires des gens qui me faisaient du castor, du pudding à la vanille, et puis un cuisinier noir dans une roulotte qui nous faisait des tartines avec très peu de pain, beaucoup de beurre, ce que nous n'avons pas vu, pas connu. Et je me souviens, dans cette ville, je suis aussi allée à l'école, donc en première primaire à l'âge de 6 ans, j'avais des tresses à l'époque, et je voulais avoir des nœuds, et des nœuds rouges de préférence, ça me plaisait beaucoup, et ma grand-mère était farouchement opposée, parce que le rouge, c'était la couleur des communistes, alors j'avais jamais droit aux nœuds rouges, toujours des roses et des blancs, et puis j'étais très déçue, évidemment. Alors, c'était le communisme était quelque chose qui était rouge chez nous, on voyait rouge, ça c'est clair, alors ça allait jusqu'aux nœuds, dans les cheveux. Alors j'ai fait en fait 5 classes en Allemagne de l'Est. Enfin, j'ai commencé ma 5e, j'ai commencé à apprendre le russe. Et c'était juste au moment où il y avait des soulèvements en Allemagne de l'Est, donc contre le communisme en juin 1953, dans lesquels mon père, qui était revenu donc en tant que prisonnier de guerre en 1950 seulement, était fortement impliqué. Et puis, ma foi, il était vite retrouvé. Il est allé à Berlin-Ouest. Alors, un mois plus tard, ma mère et moi, nous avons suivi. Et nous avons tout laissé. Ce n'était pas la première fois, parce que je crois en 39 et en 44, ça s'était déjà passé de la même façon. Nous avons tout laissé là-bas et nous sommes allés à Berlin-Ouest rejoindre mon père. C'était une opération qui était relativement facile à l'époque parce que les moyens de locomotion et donc les transports publics traversaient la ville et puis on prenait le métro à Hambourg et puis on sortait en Allemagne de l'Ouest. Pourvu qu'on n'était pas trop chargé parce qu'il y avait quand même des contrôles dans le métro et on m'avait bien préparé qu'il ne fallait pas que je dise quelque chose, qu'il ne fallait pas dire, etc., etc. Et je me souviens quand on était sur le quai de cette métro, j'avais dit à ma mère, j'ai chaud, je ne peux pas enlever un des 3 manteaux. Alors effectivement, on m'a mis 3 manteaux sur le dos parce que c'était au mois d'octobre, il ne faisait pas trop chaud ni trop froid, mais enfin l'hiver allait arriver, j'avais 3 manteaux, j'avais terriblement chaud, je me plaignais et ma mère devenait pâle, je me souvenais qu'elle était pâle. Alors, bon, en Allemagne de l'Est jusqu'en 1953, effectivement, c'est-à-dire qu'il y avait un discours un peu étrange parce qu'il y avait un discours à la maison qui n'était pas le discours officiel, il y avait un discours d'or qu'on suivait à l'école parce qu'il fallait dire un certain nombre de choses et puis ces choses-là on les disait bien. D'ailleurs, j'étais impliquée dans les jeunes pionniers, j'avais un foulard rouge, pour la bonne et simple raison déjà que tout ce qui se passait d'intéressant à l'école, les cours facultatifs, étaient organisés par les jeunes pionniers. Et si on voulait participer, eh ben, moi, il fallait se mettre des jeunes pionniers. Et tout le monde s'est mis des jeunes pionniers, si on y croyait ou on n'y croyait pas. Et ce n'était pas très important, mais enfin, ça permettait de participer.
Mais ce n'était pas obligatoire, c'était un choix quand même.
C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment obligatoire jusqu'en 1953. Je crois que personne n'était vraiment forcé. Je n'ai pas souvenir qu'on était forcé de joindre les jeunes pionniers. Mmh. Alors, il y avait encore trop de choses, trop de personnes, trop de valeurs qui étaient là d'avant la guerre. Il y avait une situation un peu hybride. Alors, je ne pense pas que quelqu'un était réellement obligé à l'époque. Mais c'était une obligation, c'était pas une obligation, mais c'était quand même quelque chose qui devait se faire parce qu'autrement on était coupé des autres. Mmh. Alors les uns entraînaient les autres, pour finir tout le monde y était.
Et alors ce double discours, quand une fois que vous quittiez la rue et vos camarades et les pionniers et tout ça, que vous rentriez dans votre famille, le discours changeait?
Le discours changeait, mais je crois qu'il changeait dans beaucoup de familles. Et j'ai souvenir que les discours changeaient même les après-midi quand j'allais rendre visite à mes copines. Il y avait aussi un autre discours à la maison que le discours officiel dans la rue ou à l'école. Et il y avait là, effectivement, il y avait des familles dont on savait que les pères essentiellement, étaient impliqués dans les partis. Qui exerçait une certaine surveillance dans l'immeuble, dans le quartier. Et de cela, on était avertis en tant qu'enfants qu'il fallait se méfier de ne rien dire ni à leurs enfants, ni à eux, etc. Mais il y avait aussi d'autres familles dont on savait pertinemment bien qu'on pouvait à peu près dire ce qu'on voulait.
Mais cette idée de surveillance, par exemple, en tant qu'enfant et qu'adolescente, vous l'avez ressentie fortement ?
Alors, adolescente, non plus, parce que je n'y étais pas. J'ai quitté, j'avais 10 ans et demi, quelque chose dans ce genre, oui, 10 ans et demi. En tant qu'enfant, c'était surveillance. Non, je crois qu'on ne la sent pas tellement. Je crois que c'est les adultes qui étaient concernés par ce genre de choses et qui nous mettaient au flair. Alors, on était relativement politisés, mais ce n'était pas quelque chose qu'on a lourdement ressenti, non.
À l'école, par exemple, comment cela se passait? Vous sentiez un point important d'une tentative de transformer complètement la vision du monde et d'instaurer un nouveau système? C'était très présent dans l'école?
Moi, personnellement, non. Mais les premières classes que j'avais faites dans cette petite ville n'étaient pas encore très marquées par le communisme. Je me souviens, en deuxième primaire, nous avions un maître communiste et mes parents, enfin ma mère me disait à l'époque que c'était un maître communiste et il avait une autre façon, effectivement, d'influencer les enfants. Mais dans la plupart des cas... La plupart de nos enseignants avaient encore reçu leur formation avant la guerre et puis ils continuaient dans la lignée comme si rien n'y avait été. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir subi un endoctrinement pendant mes 5 ans de scolarité, mais je dois dire aussi, la 3e, la 4e et la 5e classe, je l'ai fait à un endroit très très particulier. Et où il y avait c'était des usines d'ACFA et qui effectivement employaient beaucoup de gens bien formés, des chimistes, des ingénieurs. Et je crois qu'il y avait une certaine résistance des familles de se laisser endoctriner sans autre. Alors c'était un milieu un peu privilégié de ce côté-là.
Par rapport à ce que disait Valtra tout à l'heure, quand elle allait rendre visite à ses amis, elle ressentait ou bien quand elle recevait des cadeaux, elle ressentait une différence matérielle. Est-ce que vous étiez consciente que vous aviez un niveau de vie différent d'autres Allemands?
Oui, bien entendu, parce que nous recevons quand même des paquets à Noël dans lesquels il y avait des oranges. Je n'avais jamais vu une orange sur mes yeux pendant pas mal d'années. Il y avait du chocolat, nous n'avions pas de chocolat. Et il y avait des bananes. Les fameuses bananes que je n'aimais pas. Effectivement, il y avait un tas de choses. Et je me souviens quand je suis allée à l'école en... on avait encore des ardoises et j'ai reçu, je crois, 3-4 ardoises de l'Ouest parce qu'on ne pouvait pas les acheter. Ils étaient chaque fois cassés. Alors j'avais toujours des ardoises cassées parce qu'elles étaient bien et puis nous, on ne pouvait pas en avoir. Alors je ne sais d'ailleurs pas, les gens qui étaient donc originaires de là-bas avaient encore l'ardoise du père, de l'oncle, d'un grand frère, de quelqu'un. Mais nous, on n'avait plus rien après la guerre. Alors il n'y avait pas d'ardoise non plus. Alors j'avais toujours des ardoises cassées parce qu'ils n'arrivaient jamais en entier.
Est-ce que vous aviez des contacts avec des gens à l'Ouest?
Oui, mon oncle était en Allemagne de l'Ouest et je crois c'était en 1952 que je suis allée, la première et la unique fois avant de partir de l'Allemagne de l'Est définitivement, en Allemagne de l'Ouest. Mais j'ai déjà été avant à Berlin-Est parce que mon père travaillait beaucoup avec Berlin et puis parfois il me prenait avec à Berlin-Est et nous prenions le métro pour aller à Berlin-Ouest. Et ça c'était comme Noël au milieu de l'année, alors ça c'est clair, il y avait des lumières, il y avait des choses à acheter et on avait toujours acheté des souliers parce que ça c'était quelque chose d'assez fabuleux. Mais enfin, c'était surtout les lumières qui m'avaient impressionné en 8-9 ans, comme ça.
Voilà, je pense vraiment dans les années 50, il y avait des grandes différences matérielles entre les deux Allemagnes. Après, ça a évolué.
Oui, quoique on argumente toujours qu'aujourd'hui, c'est une des choses qui a le plus époustouflé les Allemands de l'Est qui sont passés à Berlin-Ouest, c'est de pouvoir acheter les fameuses oranges dont vous parliez tout à l'heure.
Mais disons, à l'époque, c'était vraiment le nécessaire, la base de la vie.
Pour tout le monde.
C'était pour tout le monde vraiment une situation matérielle très, très peu agréable. Et dans les années 60, ça a changé. Hein. Tout le monde avait suffisamment à manger. Les besoins de base étaient satisfaits. Et ça, c'est vraiment un changement. Hein. Mais quand c'était encore la russische Besatzungszone, disons, c'était...
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'était la zone occupée. Ah, oui. Et bon, pourtant, en 1949, il y avait l'État qui était créé. Mais au début, vraiment, les gens, ils ne se sentaient pas comme un État. Ça, je me rappelle très bien. Ils se sentaient comme, comme des gens qui étaient pris en charge par les Russes, qui n'avaient pas un gouvernement qu'ils avaient élu eux-mêmes. Disons, je parle comme ma grand-mère nous racontait les choses. Et au fond, ils subissaient plutôt quelque chose. Ils n'avaient pas l'impression de créer quelque chose. Bon, c'est peut-être aussi que la génération de ma grand-mère, ma foi, c'était déjà des gens à la retraite, tandis que les plus jeunes, ils avaient certainement l'impression qu'ils étaient en train de créer un autre État. C'est très différent.
Wir auch. Verzeihung.
Wunderschön ist in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
J'ai encore une valise à Berlin et quand j'aurai la nostalgie de cette ville, eh bien, j'y retournerai. C'était Marlène Dietrich. Vous êtes toujours sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8 et nous parlons avec Waltraud Kiblier et Dagmar Hexel de leur vie en Allemagne dans les années 50, histoire d'évoquer avec elles comment elles ont ressenti ensuite les événements de ces derniers mois, novembre-décembre, en Allemagne de l'Est. Et quand en 1961, mois d'août 1961, on a construit ce fameux mur de Berlin, où étiez-vous et quelle a été votre réaction à l'une et à l'autre et quelle était la réaction dans vos familles, puisque vous aviez respectivement 16 et 18 ans, donc étudiante, j'imagine, dans un monde où on discute, on lit les journaux, on écoute la radio et bien sûr, l'événement n'a pas dû passer inaperçu, même que vous étiez donc toutes les deux à ce moment-là en Allemagne de l'Ouest et loin de Berlin, en fait.
Bon, moi, j'étais à Hambourg, ça je me souviens, et j'ai, c'est un souvenir qui est très présent dans mon esprit. Je suis arrivée au club de tennis auquel je faisais partie, parce que c'était un peu ma vie de jouer au tennis à l'époque, je n'avais pas d'autres idées dans la tête, le dimanche matin, et puis on m'a dit... Il y a le mur. Non, c'était pas le mur. En fait, ils avaient des barbelés. Ils ont fermé.
Ils ont fermé Berlin.
Ils ont fermé Berlin. Exactement. Et la première idée que j'avais, c'était une idée de grande peur. J'avais 18 ans. C'était peut-être un peu irrationnel, comme ça, vu rétroactivement. C'est la guerre. Mais c'était très court, en fait. C'était une première idée comme ça, quelque chose va se passer. En fait, il y avait là un espoir que quelqu'un allait empêcher cette fermeture définitive, parce qu'elle était ressentie immédiatement comme définitive, je crois, chez tout le monde. Et quelque chose doit se passer. Les gens à l'Ouest, enfin, les Américains, c'était plutôt les Américains, n'est-ce pas, pour pas laisser faire ça. Eh bien, si.
Parce que vous ne l'aviez pas senti arriver. C'est une chose qui vous a vraiment surprise comme ça au matin.
Et je crois que c'était assez surprenant. J'ai encore lu l'autre jour un article d'un journaliste qui disait qu'on l'a littéralement sorti du lit pendant la nuit parce que personne n'avait effectivement pressenti cette affaire en disant « Lève-toi, il y a quelque chose de bizarre qui se passe ». Alors je ne crois pas que c'était quelque chose qui était très... certainement c'était prémédité quelque part, mais ça n'a pas tellement transgressé dans les discours. Je ne sais pas, je crois qu'on était assez surpris.
En tout cas, vous ne vous y attendiez pas du tout.
Ouais, non, mais je pense qu'on était trop jeunes pour s'attendre à un événement politique. Moi, je ne peux pas dire que j'avais une idée sur ce qui va arriver au niveau politique.
Et alors, vous, Valtrad, vous étiez où et comment avez-vous appris cette nouvelle-là?
Moi, j'étais en vacances en Hollande, au bord de la mer, à Noordwijk. Je me rappelle très bien que le dimanche matin, on était allé à la plage et mon père ouvrait le journal. Puis il nous raconte ça. Et on ne pouvait pas imaginer. On se disait, c'est pas possible. On ne peut pas faire une chose comme ça. C'est un passage. On ne pouvait vraiment pas imaginer que ce sera un mur qui restera jusqu'à cette année, le 9 novembre. Non, ça, on ne pouvait pas s'imaginer. Et puis après, quand même, il y avait des discussions entre mon père et d'autres amis. Mais quelles sont les conséquences d'une telle action? Je ne sais vraiment plus dire ce qu'ils ont dit à l'époque.
Est-ce que vous avez eu comme réflexe, par exemple, de téléphoner à votre grand-mère ou aux amis que vous aviez dans la partie qui désormais était de l'autre côté?
Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est des choses comme ça, c'était totalement impossible. Donner un coup de téléphone, ça n'existait pas, parce que le téléphone, il fallait attendre des fois une demi-journée, si ce n'est pas une journée, pour avoir une liaison téléphonique depuis la Hollande, à l'endroit où ma grand-mère habitait. Je pense que c'était carrément pas possible. En plus, elle n'avait pas le téléphone dans son appartement. Il fallait aller chez les voisins. Le niveau de vie était vraiment pas très élevé à l'époque. Disons, dans une certaine couche de la population. Non, alors ça, des choses comme ça, c'était vraiment hors de nos pensées.
Et est-ce que vous avez alors tenté de poursuivre ces échanges que vous aviez? Est-ce qu'après la fermeture du mur, vous êtes continué à aller en vacances ou rendre visite à ces amis dont vous nous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a eu un changement important qui s'est opéré à partir de ce moment-là?
Le changement dans le sens que nos amis ne venaient plus à l'ouest. Donc il fallait aller à l'est. En plusieurs années, jusqu'en 66, 67. Nous sommes souvent allés à l'Est. Non, souvent, ce n'est pas tout à fait juste, une fois par année. Et encore, ce n'était pas si facile que ça, parce qu'il fallait de nouveau des autorisations et quelque part avoir des contacts trop étroits avec l'Est. C'est aussi une chose où la sécurité de l'Allemagne de l'Ouest commençait à s'inquiéter. Les relations étaient vraiment très, très ambiguës à l'époque entre les deux Allemagnes. C'était toute l'époque de la guerre froide. Et comme mon père était juge, alors des fois, il craignait vraiment quand il soupçonnait d'avoir des relations avec l'Est. Bon, nous, on allait quand même une fois par année voir ses amis. C'était une question d'amitié. En plus, ça nous donnait la possibilité d'aller voir ma grand-mère à Berlin. Alors, on la rencontrait en ville. On la voyait pendant les 10 jours qu'on était là-bas. On la voyait 2 ou 3 fois. Non, donc, les relations avaient quand même changé parce qu'on ne pouvait plus faire comme avant. Et ses amis, ils rêvaient toujours qu'un jour allait revenir le moment où il pouvait de nouveau passer à l'ouest. Et bon, cet ami-là, quand il a pris sa retraite, il pouvait de nouveau passer. Parce que les gens qui ont une retraite peuvent passer facilement à l'ouest en faisant pour un voyage. Et puis, bon, ces dernières années, il y a quand même des facilités.
Donc juste avant cela, eux désiraient, n'ont pas émis à ce moment-là l'idée de quitter l'Allemagne de l'Est, d'essayer de partir de là et de venir s'établir en Allemagne de l'Ouest?
Oh, oui, il avait toujours des idées de venir, mais il fallait tout quitter. Ils avaient aussi une situation qui était relativement confortable. Ils n'ont jamais eu vraiment le courage. Ils ont fait des projets, mais ils n'ont jamais passé à l'acte. Comme les enfants qui maintenant sont aussi dans la quarantaine n'ont jamais passé à l'acte non plus. Ils sont restés.
Et pour vous, ces tractations, obtenir ce permis, etc., c'est une chose qui petit à petit s'est instaurée comme une vraie barrière infranchissable. Vous le disiez avant, on ne le sentait pas vraiment au début, mais là, tout à coup, c'est devenu quelque chose de vraiment très,
oui,
très présent.
Oui, parce qu'il y avait le change qui était obligatoire, alors ça agaçait beaucoup. Changer un à un, chaque jour, 25 marques, ça ne nous plaisait pas beaucoup. Disons, tout ce qui est imposé, moi, personnellement, je n'aimais pas beaucoup ça. Puis ces autorisations, s'annoncer à la police, se sentir quelque part surveillé, savoir qu'on n'a pas le droit d'aller là ou là, on doit rester dans le district, et des choses comme ça, quelque part, ça m'a semblé vraiment difficile. Bon, je pense, une autre raison, c'est que ça fait longtemps que je suis en Suisse, depuis 71, et c'était vraiment loin. Loin et peut-être pas très attractif comme but de vacances.
Évidemment, quand il y a tellement d'embûches, ça devient difficile de choisir cela réellement comme lieu de vacances. Avec vos amis, les relations ont évolué aussi avec toutes ces... Parce que eux, finalement,
oui, chacun s'est installé dans sa vie. Chacun a fait sa vie. Ça, c'est tout à fait normal. Puis au fond, depuis la fin des années 60, je n'avais plus beaucoup de contact avec ces amis-là. Mais ma sœur, elle a renoué il y a 2 ans. Et c'était vraiment une chose très, très positive, chouette, ce qui fait qu'on a prévu avec ma sœur d'aller voir ses amis l'été prochain. Bon, maintenant, les choses ont changé. Peut-être qu'ils viendront nous voir en Allemagne ou qu'ils viendront nous voir à Genève. Il faut voir, mais quelque part, on avait vraiment envie de reprendre.